Bernard Hébran, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de la multigestion chez Invesco Asset Management. On va parler avec vous de marché et de perspectives sur ces marchés. Comment vous abordez, on va dire, cette année 2014 avec des indices qui ont plutôt bien progressé pour certains d'entre eux quand on regarde ce qui s'est passé aux États-Unis. Est-ce qu'on doit être un peu plus prudent sur les actions ou pas?
Alors les indices avaient très très bien progressé, en particulier aux États-Unis en 2013, l'année dernière. La plupart des grands indices sont plutôt plats hein, sur le premier trimestre depuis le début de l'année, en tout cas aux États-Unis. Tout ça en face, il faut mettre ça en perspective des résultats des sociétés. Au moment où nous parlons, ils sont en train d'être publiés et ils sont très très largement supérieurs à ce qu'on appelle les attentes du consensus. Et ils sont en progression par rapport à la même période il y a un an. Donc on a des bénéfices qui sont toujours robustes et un petit peu tout secteur confondu. Ça, on est une espèce de diffusion de la fermeté des résultats sur ce trimestre, sur ces publications. Donc pour le moment, au point où on en est, bonne saison des résultats. En face de ça, c'est vrai, des indices qui plafonnent un petit peu, mais il faut bien garder en perspective qu'ils plafonnent pas loin des plus hauts. Donc pour le moment, on s'en tire très bien.
Donc quelque part, on peut dire à l'heure d'aujourd'hui en tout cas, il y a eu une confirmation de la hausse précédente, de ce qu'avait justifié cette hausse en disant que ces entreprises allaient bien. Là, dans ce qu'elles délivrent, finalement, les investisseurs sont un peu confortés.
C'est tout à fait ça. On a vu des marchés qui avaient beaucoup progressé l'année dernière. La question, c'est que derrière, il faut qu'on ait des bénéfices qui suivent. Et effectivement, les bénéfices, ils sont en train, entre guillemets, de rattraper les marchés quasiment. Alors, on dit souvent que les marchés doivent anticiper ce qui se passe sur les chiffres qu'on voit être publiés. Donc, c'est un peu ce qui se passe aux États-Unis. C'est intéressant de constater qu'on est en opposition de phase assez claire avec ce qui se passe en Europe, où en Europe, on a des marchés qui ont plutôt plus progressé dernièrement que les États-Unis. En revanche, les résultats des entreprises sont à nouveau pas du tout au rendez-vous.
Alors sur la partie macroéconomique, là, on pourrait dire qu'aux États-Unis, il y a à la fois des confirmations et puis toujours quelques doutes. On se demande si effectivement c'est bien, l'économie américaine va bien repartir. On a des chiffres qui le montrent, d'autres peut-être un peu moins. Est-ce qu'on y voit un peu plus clair sur les États-Unis ?
C'est une des zones du monde où on a un cycle qui ressemble à peu près à un cycle économique classique, avec une reprise économique classique. Et toutes les statistiques qui sortent ces derniers temps sur l'économie, que ce soit le logement, que ce soit l'emploi, que ce soit la progression des prix, enfin, c'est un petit peu général. On voit vraiment une reprise économique qui est bien enclenchée, un marché de l'emploi qui est bien reparti. On sait qu'il y a toujours des faiblesses qui sont bien connus par le gouverneur de la Fed, qui est spécialiste du marché de l'emploi, donc ça tombe très très bien. Madame Yellen, qui insiste toujours sur le fait qu'elle ne va pas se limiter à juste regarder le taux de chômage et qu'il y a bien d'autres statistiques à regarder avant de dire « ça y est, l'économie est vraiment repartie ». Néanmoins, c'est probablement la zone du monde où on a la reprise économique la plus ferme par rapport à toutes les autres régions dans le monde.
En même temps, on a vu ces entreprises américaines justement dont on parlait racheter des titres. On se pose la question de leurs investissements. On voit des montants astronomiques. Alors, je pense à Apple par exemple sur les rachats, les montants prévus de rachat de titres. Mais on se dit, est-ce qu'elles vont investir et donc embaucher derrière un peu plus ?
Oui, alors à tel point qu'on a vu la plus grosse société de gestion du monde mettre en place une initiative assez inédite à ma connaissance. Ils ont envoyé une lettre à tous les plus grands dirigeants d'entreprises en Europe et aux États-Unis demandant d'investir, de faire autre chose avec leur cash que du rachat d'actions. Et d'investir pour l'activité future, ça c'est assez nouveau. On a toujours effectivement des investissements qui sont au moins ternes, voire en berne complètement, et ça c'est le cas en Europe en particulier. Et ça pose évidemment un problème pour la croissance à venir. Donc on a cette grosse société de gestion qui a dit, allez-y, investissez dans votre activité, faites quelque chose au lieu d'acheter vos actions. Et si vous n'avez pas d'autres projets que du rachat d'actions, c'est un peu gênant. Et tout dernièrement, il ne s'agit pas forcément d'investissement en tant que tel, mais enfin, tout dernièrement, sur les derniers mois, on a vu vraiment une affirmation et un décollage des opérations de fusion-acquisition qui peuvent être des opérations soit assez classiques, soit des regroupements et des cessions d'activités et des recentrages d'activités. Donc on a vraiment tout ce cash qui dormait au bilan et de certaines sociétés, disons, industriel et commercial, et puis de fonds de private equity et de hedge fund, etc., ça y est, qui arrive un petit peu sur les marchés et qui a l'air d'être là pour être un peu mis au travail. Mais enfin, on est vraiment encore au tout début du processus.
Mmh. Alors, du côté de l'Europe et de la politique monétaire, on n'en est pas au même rythme qu'effectivement du côté de la Fed, bien entendu. Là, on parle, les sujets du moment en tout cas, on parle de risques de déflation, peut-être de quantitative easing à l'européenne. On n'a pas le même regard sur la politique monétaire en Europe, là.
Oui, alors on est à peu près vraiment en opposition de phase à nouveau par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, alors que la Réserve fédérale américaine a déjà commencé il y a quelque temps et continue à ralentir ses achats de titres, son fameux quantitative easing. On parle assez sérieusement maintenant en zone euro d'en mettre un en place, un quantitative easing, sachant qu'on n'a pas d'inflation et même de moins en moins d'inflation. Et qu'on a un crédit qui n'est toujours pas là. On a un crédit bancaire qui est la première source de financement en Europe et en zone euro en particulier, qui est toujours totalement atone, voire toujours en contraction. Et là où on attendait un certain nombre de voies de sortie de cette crise de l'endettement dans laquelle on est maintenant depuis au moins 5 ans, on a à peu près tous les indicateurs qui vont dans le mauvais sens. La crise de l'endettement, pour en sortir traditionnellement, on voit 4 pistes. Si on est trop endetté, première méthode qui a été employée ponctuellement par certains États, mais c'était plutôt petit, c'est le défaut. On dit « je vous devais 100, mais en fait je vous rembourserai que 50 ». Ça a été fait très ponctuellement, y compris en zone euro, mais ça doit rester ponctuel. Donc le défaut, très partiel. Ensuite, la méthode la plus agréable pour sortir d'une crise d'endettement, c'est d'avoir de la croissance, comme ça on rembourse. C'est facile, c'est agréable et c'est bien, sauf que c'est un peu compliqué en zone euro. On était encore en croissance négative l'année dernière, 2013. Troisième méthode, l'inflation. Pourquoi ? Parce que la charge réelle de votre dette diminue au fur et à mesure que les prix augmentent, donc inflation. Et puis dernièrement, ce qu'on appelle se serrer la ceinture, donc couper dans les dépenses. Et ça, c'est largement fait depuis un moment. Sauf qu'on a beau couper dans les dépenses, les rentrées fiscales sont inférieures. Et donc, les dernières statistiques qui ont été publiées sur la zone euro montrent que la dette publique en zone euro est au plus haut historique aujourd'hui. Donc, après quand même quelques années de serrage de ceinture. Donc, tous les moyens envisagés pour le moment sont vraiment au moins au point mort. Pas de croissance, pas d'inflation, dette au plus haut. Donc, effectivement, on attend vraiment avec impatience quelque chose du côté de la politique monétaire parce que pour le moment, on n'a pas mieux.
Alors, si on va un peu plus loin du côté des pays émergents, si on parle de la Chine, on a vu que ça avait pu inquiéter les investisseurs. Bon, on a une croissance un peu plus que 7%, mais est-ce que de ce côté-ci, il peut y avoir encore des risques, on va dire, dans les prochains mois ? Ou est-ce que ça se stabilise ?
Alors, des risques, on voit qu'il y en a beaucoup et qui sont très, très différents d'une économie émergente à l'autre. Et si on parle de la Chine, effectivement, la Chine… On est toujours très très attentif dessus déjà parce que c'est la plus grosse de toutes ces économies et de très loin. Et puis parce qu'on sait qu'elle a une structure qui est assez particulière. Beaucoup d'inquiétudes ces derniers temps, en particulier sur le système financier chinois avec cette fameuse finance de l'ombre, ce shadow banking. Entre guillemets, une des très bonnes nouvelles des derniers mois, c'est qu'on a eu des défauts sur ces financiers de l'ombre, ces trusts comme on les appelle là-bas. Et donc on a une obligation qui n'a été que partiellement remboursée. C'était une grande première historique. Ça aurait pu être vu comme une catastrophe. En fait, ça a plutôt été bien pris. Pourquoi ? Parce que ça montre, entre guillemets, une certaine transparence sur ce marché. Et puis finalement, des prix qui s'ajustent un petit peu comme les marchés occidentaux, on a l'habitude. Donc il semble que toujours à leur manière, de manière très graduelle, très progressive, à un rythme qui n'est pas forcément celui des marchés occidentaux, les marchés chinois soient en train de s'adapter. Même si du côté des marchés actions là-bas, on est toujours pas loin des plus bas. Et c'est vraiment un des pires marchés depuis des années maintenant.
En conclusion, justement, comment évolue votre allocation d'actifs globale ? Il y a toujours cette partie action importante ou il y a plus de prudence ?
La partie action, elle est toujours assez importante. Elle est peut-être un petit peu moins importante qu'elle était en début d'année, mais c'est toujours le cœur des portefeuilles, avec toujours beaucoup d'investissements sur l'Europe. C'est vraiment là qu'on a un rattrapage des bénéfices à venir. On l'attend toujours. Ça commence à faire un moment qu'on l'attend. Il va falloir qu'il vienne. Un certain nombre de conditions sont réunies pour qu'il vienne. Et puis, c'est aussi un endroit dans le monde. C'est probablement l'endroit dans le monde où on a encore le plus de rendement sur les marchés actions. Dans un certain nombre de cas, quasiment le double de ce qu'on a aux États-Unis. Donc, c'est aussi une source de performance qu'il faut le garder en tête dans le temps de performance sur les actions. C'est le rendement. Et donc, c'est sur l'Europe qu'on en trouve beaucoup. Donc, on est toujours pas mal investi dans la région.
Merci Bernard Hébron d'avoir été avec nous.